Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 19e épisode de Mater Radio, un rendez-vous mensuel proposé par l'Institut Chevreul, une fédération de recherche sur la chimie et les matériaux qui donne la parole aux doctorantes et aux doctorants de ces laboratoires. Une émission présentée par moi-même, je m'appelle Elisa Després et je suis chargée de médiation scientifique pour cet institut. Aujourd'hui, on va parler de la Terre et plus particulièrement du noyau interne. Et pour parler de ce sujet, je suis en compagnie de Léo Carin. Bonsoir.
Bonsoir.
Tu es doctorant en deuxième année à l'UMET. Alors, pour commencer, ton sujet de thèse s'intitule « Atténuation et déformation d'alliages métalliques dans le noyau interne terrestre ». Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ton sujet de thèse ?
En fait, moi, je vais travailler sur des matériaux analogues au noyau, donc comme un modèle. Et on va notamment essayer d'apporter des mécanismes physiques qui peuvent expliquer pourquoi les ondes sismiques, elles perdent plus ou moins d'énergie quand elles se propagent à l'intérieur de la Terre, et notamment dans la partie centre de la Terre qu'on appelle le noyau terrestre.
Et alors, pourquoi travailler spécifiquement sur le noyau terrestre ? En quoi il est différent du reste de la Terre ?
Alors, la Terre, elle est un peu divisée en deux parties. On a une partie, on va dire, rocheuse, à peu près la moitié. Et ensuite, au milieu, on a la partie métallique qui contient majoritairement du fer. C'est un alliage de fer, précisément, donc du fer et quelques autres éléments, comme du nickel. Et donc, moi, c'est cette partie-là que j'étudie. Donc, notamment la partie noyau interne. Donc, en fait, le noyau, il est divisé en deux parties. On a du fer qui va être liquide, il est fondu, parce que plus on s'enfonce à l'intérieur de la Terre et plus la température augmente. En revanche, plus on s'enfonce, plus la pression augmente aussi, puisqu'on a de plus en plus de matière au-dessus de notre tête. Et donc, on a une partie qu'on appelle le noyau interne, qui lui va devenir solide du fait de l'effet de la pression.
Et comment on connaît justement cette structure de la Terre ?
Alors, une des manières de déterminer ça, ça a été justement la sismologie. En fait, il y a un réseau de sismographes qui couvre l'entièreté de la Terre. Et enfin, en tout cas, une bonne partie. On essaie surtout les parties terrestres. Et donc, qui nous ont permis de noter que, en fait, les ondes, quand elles se propagent, elles vont se réfléchir quand elles vont rencontrer une surface différente. Et donc, ça nous a donné un peu les couches de la Terre. Donc, on sait qu'on a une croûte d'une tour de 10 km. Et puis ensuite, on a différentes parties. Donc, cette partie rocheuse. Et quand on atteint le noyau, donc la partie métallique, les ondes vont se réfléchir et revenir. Et donc, on va pouvoir calculer, en fonction du temps qu'elles ont mis, à atteindre tel sismographe à telle position et savoir qu'il y a une discontinuité, on appelle ça une discontinuité, à cet endroit. Et donc, c'est comme ça qu'on sait qu'il y a la partie rocheuse, une partie métallique fondue et puis au milieu, une partie métallique solide.
On parle dans ton sujet de thèse d'atténuation. Qu'est-ce que c'est ?
Donc, l'atténuation, c'est simplement la perte d'énergie d'une onde lorsqu'elle se propage dans un milieu. Donc, ça va être, par exemple, c'est ce qu'on, un peu l'idée, la même idée que pour un amortisseur, en fait, quand il va prendre un ressort, il va absorber l'énergie mécanique qu'on lui induit et il va chauffer un peu en échange.
Et en quoi c'est important, du coup, d'étudier cette atténuation aujourd'hui ?
Alors, l'atténuation en géophysique, c'est un grand sujet, ça donne des informations sur la structure de la Terre. On essaie en fait justement de corréler cette perte d'énergie à des zones dans la Terre qui vont avoir des particularités. Donc par exemple, on peut dire à cette zone-là, elle perd beaucoup d'énergie parce qu'on a un matériau, par exemple, qui est très chaud, donc un peu visqueux, comme si vous marchez dans de la vase, vous allez mettre du temps à avancer, alors que si vous marchez sur du bitume, vous allez avancer tout seul. Donc ça, c'est des hypothèses, tout n'est pas confirmé, hein, faut pas, voilà. Mais ça, par exemple, c'est une des choses que j'essaie de démontrer au laboratoire avec mes expériences.
Tu travailles donc sur un matériau modèle et pas sur le vrai matériau du noyau. Pourquoi et quelles sont les différences ou les similarités ?
Donc, comme j'ai dit au début, le noyau, c'est un alliage de fer. Et donc, si on veut, travailler sur le noyau, alors on ne peut pas creuser, hein, parce que le trou le plus profond creusé par l'homme, c'est à peu près 12 km. Donc, on n'a même pas atteint le manteau terrestre. Et donc, il y a deux possibilités. Soit on se dit, OK, on va prendre une composition un peu semblable à ce qu'on suppose qu'il y a dans le noyau, donc un alliage de fer. Mais donc, si on veut étudier ça, il va falloir monter aux pressions et aux températures qu'on retrouve dans le noyau pour pouvoir avoir une analogie. Donc, c'est ce que font d'autres de mes collègues. Et nous, on est parti d'un autre principe pour avoir plus d'informations à plus grande échelle, on va dire. Et donc, on utilise un matériau qui a la même structure que ce qu'on suppose pour le fer dans le noyau. C'est-à-dire qu'en fait, les atomes, donc des plus petites entités de la matière, ils vont se répartir d'une certaine manière dans l'espace qui va être similaire à mon matériau, mais mon matériau, il a cette structure à température et à pression ambiante. Donc on peut avoir un échantillon de noyau, entre guillemets, qui se retrouve en fait à pression et température ambiante. Donc c'est pas du tout le même matériau, c'est du magnésium qu'on utilise.
Ok, et donc tu nous as dit, on suppose que c'est ce type de matériau dans le noyau. Est-ce qu'on pourrait faire complètement fausse route ?
Complètement fausse route, je ne pense pas quand même. Parce qu'en fait, on a aussi, je n'avais pas parlé au début, mais les météorites qui nous donnent des informations sur ce qu'on peut retrouver dans les planètes. Et en fait, il y a quand même des météorites qui sont, par exemple, quasiment composées que de fer. Donc ça nous donne des informations qui pourraient expliquer que c'est sûrement du fer. Les densités, en plus, qu'on a déterminées, nous sont assez proches d'un alliage de fer, en tout cas dans le noyau. Donc ça laisse peu de marge sur un élément majoritaire autre que le fer. En revanche, sur tout ce qu'il y a autour, c'est très débattu. Et donc, il y en a qui vont mettre un tel pourcentage de nickel, de silicium, d'autres, ils vont mettre de l'oxygène. Enfin, il y a un peu de toutes les recettes. Voilà, on essaie un peu de creuser toutes les pistes parce que les informations sont difficilement accessibles.
Et donc, tu nous parles donc d'un alliage qui est donc à température ambiante, à pression ambiante. Et donc, j'imagine que ça te permet de faire plus d'expériences. C'est ça aussi l'atout de cet alliage ?
C'est ça. En fait, l'inconvénient quand on prend un matériau type du fer et qu'on veut le mettre aux pressions température, ça demande beaucoup de préparation. On utilise des technologies qu'on appelle les cellules à enclume de diamants. Donc c'est deux diamants avec une pointe très petite, une dizaine, centaine de micromètres, et on vient mettre un échantillon encore plus petit, donc on ne le voit même pas à l'œil nu, et ça demande toute une préparation, des expérimentations assez complexes. Moi, l'avantage, c'est que je peux faire beaucoup d'expériences. J'ai dû attendre déjà plus d'une centaine d'expériences pendant ma thèse, donc plus d'une centaine d'échantillons, contrairement à quand on utilise cette technologie, sur 3 ans, on va peut-être en avoir une dizaine. Donc ça nous donne ces informations-là, et puis on peut avoir une information plus macroscopique, parce que du coup, on a des échantillons qui sont plus gros, donc on peut étudier des phénomènes à plus grande échelle.
Plus gros, tu dirais que c'est quelle taille d'échantillon ?
Alors, ça reste petit, mais, mais en tout cas, pour cette étude de l'atténuation, c'est des fils qui font à peu près 2 mm de diamètre et 4 cm de hauteur. Donc, voilà. Et après, quand on les étudie au microscope, on a une portion de ça qui doit faire un tour d'un millimètre, un peu moins. Voilà.
Tu parles aussi dans ton travail de la notion d'élasticité. Est-ce qu'elle est importante et qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, l'élasticité, déjà, c'est vous prenez un élastique, vous tirez dessus, vous allez le relâcher, il va revenir à sa forme initiale, en tout cas son état initial. En fait, nous, on étudie ça parce que donc la Terre, elle se comporte comme un matériau aussi qui peut avoir des propriétés élastiques. Mais notamment, ce qui nous intéresse, c'est les propriétés visco-élastiques. Donc, on a une composante visqueuse qui entre en compte. Un peu comme un oreiller ou un matelas mémoire de forme. En fait, on va s'allonger dedans et quand on va ressortir, il ne va pas directement revenir à sa position initiale. Un peu comme l'élastique, c'est presque instantané un élastique. En fait, le matelas, il va mettre un peu de temps. Et c'est cette composante qu'on dit visqueuse qui, nous, on étudie parce que, justement, les propriétés visco-élastiques de matériaux, comme par exemple ici le noyau terrestre, pourraient expliquer pourquoi les ondes sismiques, elles perdent plus ou moins d'énergie.
Donc l'idée de ta thèse est de définir les mécanismes d'atténuation qui peuvent se produire à la fois dans les métaux que tu utilises comme modèle et dans le noyau terrestre interne. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroulent les expériences ? Donc tu nous as parlé de machines tout à l'heure, mais du coup concrètement, comment...
On met ça en place.
Voilà.
Alors, donc ma machine, c'est un peu l'idée de reproduire le passage des ondes sismiques dans un matériau. Donc en fait, c'est... une machine qui vient, donc je vous ai parlé d'un fil, on vient glisser un fil entre deux mors qui sont verticaux, et donc enfin des pinces, en gros ils attrapent le fil, et ensuite les deux mors ils sont reliés à toute une machine, et ça vient tirer dessus en traction, et ensuite faire des oscillations, donc les mors vont tirer plus ou moins, puis relâcher, retirer, etc., comme si une onde sismique traversait le matériau, et donc on va avoir une sollicitation mécanique sinusoïdale.
Tu utilises également, tu analyses également tes échantillons au microscope. Pourquoi c'est important d'avoir cette notion au microscope ?
Alors la microscopie, elle va nous apporter des informations sur l'échantillon. En fait, j'utilise notamment une technologie qui s'appelle l'EBSD, donc c'est la diffraction des électrons. Je vous épargne les détails pour ce soir, mais l'idée, ça nous donne en fait un peu l'orientation. Je vous ai parlé tout à l'heure que notre matériau, il a la même structure que ce qu'on suppose dans le noyau. Et donc, en fait, imaginons que tous les atomes soient aux quatre coins d'un cube. Bon, nous, c'est pas un cube, c'est un hexagone, mais on va simplifier. Eh bien, en fait, quand on regarde au microscope, on va savoir si notre cube, il nous regarde face à nous, ou s'il est orienté dans un certain sens ou dans un autre. Et donc ça va nous donner des informations sur notre matériau, qu'est-ce qui s'est passé durant nos expériences.
Tu nous as parlé tout à l'heure d'une centaine d'analyses. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes premiers résultats ?
Oui. Oui, les premiers résultats, oui, c'était donc il y a un peu plus d'un an maintenant. Et au début, c'est pas facile parce que on connaissait pas la machine. Et en fait, c'est une machine qui est très utilisée par les polyméristes. Et moi, je suis plutôt côté métallurgie. Donc, en fait, parce qu'eux, ils utilisent ça par exemple pour les élastomères, pour les pneus, etc., pour savoir la fréquence de résonance à laquelle le pneu va réagir et pour éviter que votre voiture, elle saute dès qu'elle passe une route qui les fait vibrer votre pneu à la fréquence à laquelle il ne faut pas qu'il vibre. Et donc, il a fallu adapter un peu tout ça parce que les métaux, ils ne se comportent pas du tout comme les plastiques, les polymères. Et donc déjà, nous, on évolue à plus haute température. Et en fait, il a fallu déterminer les paramètres qui permettaient d'avoir des résultats cohérents par rapport à tout ça. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'on tire trop sur notre échantillon. Parce qu'on ne veut pas avoir ce qu'on appelle de plasticité, donc c'est-à-dire une déformation irréversible du matériau. Nous, on veut vraiment étudier ces propriétés viscoélastiques pour expliquer l'atténuation. Et donc, il a fallu ajuster un peu tout ça. Heureusement, on avait eu une stagiaire d'IUT, Aérine, qui avait fait une partie de cette optimisation. Donc moi, j'ai continué ça avant de faire toutes les expériences qui ont suivi et qui ont donné des résultats à foi sympathiques.
Et ton objectif alors pour l'année à venir ?
Eh bien, j'aimerais bien à la fin de l'année, décembre, d'avoir fait au moins terminer quasiment le premier article que je suis en train d'écrire actuellement. Donc après, on verra, mais voilà.
On a parlé tout à l'heure de haute pression. Est-ce que tu pourrais détailler un peu ce sujet dont tu as des collègues qui travaillent pour le coup, eux, dans des conditions de haute pression, c'est ça ?
C'est ça. Alors, une des limites de l'instrument que j'utilise, en fait, c'est qu'on n'a pas de pression qui est appliquée. On travaille à conditions ambiantes. Et donc, ça peut être quelque chose qui est débattu aussi et sur lequel on va devoir proposer des compensations, mais des explications. Voilà, qu'est-ce que ça pourrait changer, l'effet de la pression ? Et justement, il y a par exemple un de mes collègues qui travaille sur en fait, le même dispositif que moi, mais sous pression. Et comme ça, on va pouvoir comparer les deux aussi, donc voir un peu ce que ça change. Donc lui, par contre, il va utiliser ses cellules à enclume diamant, dont je vous ai parlé précédemment. Et en fait, il a donc ces deux cellules face à face et il va faire vibrer ces cellules pour pouvoir reproduire justement ce passage d'onde sismique comme ce que je fais avec la DMA, donc la machine que j'utilise.
Et vous avez déjà pu comparer les résultats ou il faut attendre peut-être un peu?
Un peu, il y a déjà des résultats qui sont sortis, mais c'est des expérimentations qui sont très récentes et qui, là, les derniers, on a dû aller, donc ce que je vous dis, c'est très compliqué. Donc on a dû aller dans des grands instruments, donc c'est un synchrotron. En fait, c'est une sorte d'accélérateur de particules et qui nous donne des radios de très haute qualité. Voilà. Et donc, pour résumer, donc on utilise des rayons X. Et en fait, ça permet de sonder la matière et ça nous a permis de faire des premières expériences en essayant de chauffer un peu, différentes fréquences, etc. Sauf que ça demande un temps de traitement de données qui est très important, à peu près 6 mois là, pour une expérimentation de quelques jours. Donc, pour l'instant, oui, on a vu quelques résultats, mais c'est difficile de comparer avec ce qu'on a obtenu.
Très bien. Merci Léo pour ces premières réponses. Je vous propose de faire une pause musicale avec le morceau Walk of Life de Dire Straits. De retour pour la deuxième partie de cet épisode de Mater Radio sur Radio Campus. Je suis toujours en compagnie de Léo, un doctorant de deuxième année. On va passer maintenant à ton parcours. Je te propose qu'on revienne un peu sur les motivations qui t'ont amené à faire de la recherche. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelles études as-tu suivies ?
Donc pour commencer, moi j'ai fait ce qu'on appelait un bac S à l'époque. Maintenant j'ai l'impression d'être vieux, mais alors que je ne suis pas tant que ça. Et voilà, j'ai fait donc beaucoup de mathématiques, physique, SVT. Et ensuite j'ai fait une prépa donc CPGE, donc on dit ouverte. Donc deux ans, hein, donc j'ai fait PCSI, donc c'est physique, chimie, puis beaucoup de maths, hein, toujours en prépa, il y a toujours des maths. Et ensuite, j'ai fait une classe PC étoile, donc à Henri Wallon, à Valenciennes. Donc c'est physique, chimie, mais en fait, en prépa, il y a des... en deuxième année, ils font des classes de niveau en fonction des concours qu'on prépare, parce qu'on prépare pas les mêmes concours selon... les niveaux des élèves, et donc ça permet de répartir tout ça pour optimiser les chances des autres. Quoi.
Et ensuite, tu as passé un concours, du coup ?
C'est ça, donc à la fin des deux ans, c'est un concours national entre toutes les prépas de France, et ça permet d'intégrer majoritairement des écoles d'ingénieurs, mais aussi d'autres cursus, rejoindre la faculté aussi, ou d'autres formations, un peu dans ce style-là. Voilà.
Et toi, du coup ?
Moi, du coup, j'ai fait une école d'ingénieur, donc en sciences des matériaux, et particulièrement donc en traitement de surface. Donc le plus connu, c'est la peinture, hein, mais c'était pas vraiment ça qu'on faisait, mais c'est un peu l'idée. Et donc j'ai fait ça à Limoges, à l'ENSI-LENSI. J'ai fait mes trois années là-bas, après la prépa. Et en dernière année, j'ai fait aussi un master de recherche sur les céramiques haute performance, donc les céramiques techniques, pas les assiettes et les toilettes, mais plutôt tout ce qu'on va faire, par exemple sur les avions pour protéger de la chaleur dans les turbines, etc.
Pourquoi dans un premier temps, tu as décidé de t'orienter vers les matériaux ?
En fait, de base, moi je voulais faire de l'astrophysique quand j'étais petit. Donc en fait, je vais faire de la recherche depuis très longtemps, depuis le collège. Et en fait, donc, je faisais beaucoup d'astronomie, etc. Et puis, finalement, au fur et à mesure des recherches aussi, etc., sur le métier, il y avait certains aspects qui me plaisaient un petit peu moins. Et puis, c'est très compliqué aussi, l'astrophysique. Il faut remettre dans... Donc, ceux qui arrivent, c'est quand même quelque chose. Il faut être très persévérant. Quand je suis arrivé en prépa, j'ai adoré la chimie. Et je me suis dit, ah, c'est dommage de faire que de la physique. J'aimerais bien quand même faire un peu de chimie parce que c'est chouette. Je me suis dit, bon, bah, quelle filière propose un peu un mélange des deux ? Et en fait, matériaux, c'est une filière qui correspond très bien à ce critère puisqu'on faisait vraiment des parties physiques, des parties chimie. Et en plus, je savais que ça me permettait de rejoindre des domaines qui m'intéressaient comme tout ce qui était lié à l'astrophysique, au spatial, des choses comme ça. Et aussi m'ouvrir sur d'autres domaines que je ne connaissais pas du tout. C'était très large, donc c'était bien.
Et donc, tu as trouvé un peu un bon compromis en faisant plutôt de la géophysique ?
C'est ça. En fait, j'avais un peu des idées de... Je me disais qu'il y avait des sujets en lien comme ça, parce que même déjà, quand je suis arrivé dans ma promo, il y avait une amie à moi qui avait fait un stage... dans un laboratoire d'astrophysique, alors qu'elle faisait déjà des matériaux. Donc, je savais qu'il y avait des comparatifs et que c'était possible de passer de l'un à l'autre parce que c'est des disciplines en fait, qui ont beaucoup de points communs, la géologie et les sciences des matériaux. Il y a beaucoup de technologies qui sont utilisées. Hein. Je parlais de BSD tout à l'heure. C'est quelque chose qui est utilisé dans les deux. Et donc, je m'étais dit, bah, voilà, ça me laisse cette porte sur ça et de pouvoir revenir. J'ai cherché mon stage... en master, et je suis tombé sur le laboratoire. J'ai vu l'équipe qui s'appelait Matériaux terrestres et planétaires. J'ai fait, ben, c'est exactement ce que je vais faire. Donc, j'ai pas cherché beaucoup plus. J'ai postulé et j'ai pas passé en M1 parce que c'était voilà. Mais en M2, je suis allé faire mon stage de recherche et puis j'ai continué en thèse sur le même sujet.
Donc, tu connaissais déjà la recherche au collège, mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire une thèse ?
Je connaissais un peu la recherche, je m'étais renseigné et tout ça. Après, j'avais la chance de faire deux stages d'observation quand j'étais au collège et au lycée. Donc, un stage au laboratoire d'astrophysique de Marseille et un autre à l'IRAP à Toulouse. Donc, c'est aussi un laboratoire d'astrophysique. Et en fait, ça m'avait vraiment plu. Et ensuite, au fur et à mesure, même en prépa, etc., je trouvais que l'enseignement, c'était quelque chose qui m'attirait aussi. Je voulais faire pas mal ça. Donc, maître de conf, enseignant-chercheur, c'était quelque chose qui m'attirait. J'avais aussi des retours d'expérience. Mon oncle il est maître de conf ici à Lille, donc voilà, pas en physique, mais ouais, ça c'était un métier qui avait l'air attirant, qui propose quand même beaucoup de choix, beaucoup de liberté, et puis on peut faire plein de choses qui sont très sympathiques, donc c'est chouette.
Donc la suite, ça serait plutôt maître de conf.
C'est plutôt ce qui m'intéresse, ouais, c'est ça. J'aimerais vraiment bien enseigner. J'ai pu faire de l'enseignement la faculté. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, donc continuer dans cette direction pour l'instant. Après c'est compliqué, hein, c'est difficile d'avoir un poste, voilà, il y a plein de choses, il faut être patient, il faut être mobile, donc voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant ça reste l'objectif numéro 1.
Si on revient dans le présent, qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ta thèse?
Je dirais deux parties. J'aime beaucoup l'expérimental. Passer du temps au labo, je trouve ça chouette. Essayer de trouver des manières de se débrouiller pour arriver. Des fois, c'est presque du bricolage. Hein. mais ça fonctionne, hein. Donc c'est chouette. Et après, la partie un peu biblio, essayer de comprendre ces données, tout ça, ça c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, d'essayer de comprendre voilà, qu'est-ce qui s'est passé. On a ces données là, qu'est-ce qu'on peut en faire, voilà, ça c'est très intéressant.
Tu dirais que c'est 50-50, une partie bricolage et une partie biblio, ou...
Ça dépend, j'ai fait beaucoup de labos en première année, maintenant que les expériences en grande partie sont faites, j'en fais beaucoup moins, donc oui, je dirais 50-50, mais... Pour l'instant, je pense qu'à la fin de la thèse, ce sera plutôt, sur les cumulés des 3 ans, c'est plutôt 70-30.
Après, j'imagine qu'il faut avoir le temps aussi de se poser pour comprendre les résultats que tu as obtenus.
Bah déjà, en fait, il faut les mettre en forme. Et ça prend du temps. De savoir comment les présenter pour pouvoir les analyser. Qu'est-ce qu'il faut regarder, comment on le regarde. Ça prend beaucoup de temps. Surtout quand c'est des choses qu'on n'a pas faites avant, par exemple. Et après, une fois qu'on a fait ça, ok, maintenant on les regarde, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que les autres ont proposé sur ces sujets-là, ou qu'est-ce qu'on peut proposer si rien n'a été proposé. Ça prend aussi du temps. Et puis tout ce qui est rédaction aussi, là je suis en train d'écrire l'article, mais après il y aura la thèse. Après, enfin voilà, donc il y a aussi une partie là-dessus qui prend du temps, les présentations, il faut essayer d'échanger avec l'équipe régulièrement, les autres chercheurs, ça vous donne des idées, voilà. Donc,
Pour finir, j'ai une dernière question. Quel conseil donnerais-tu à des jeunes qui seraient intéressés pour faire de la recherche?
Pour faire de la recherche, je dirais déjà, bon, si pour faire de la recherche, faut être passionné. Ça c'est le critère numéro 1. Je pense que c'est pas un métier qu'on peut faire si on n'a pas vraiment cette envie de cette curiosité de tout. Enfin, voilà, je trouve que c'est, enfin, moi en tout cas, c'est ce qui m'a guidé un peu de comprendre, essayer de comprendre un peu tout ce qui se passe autour de nous. Mais pas que scientifiquement, hein. Ça peut être les gens, comment ils interagissent, etc. Je pense que c'est quelque chose, toutes ces choses-là, ça donne un esprit de curiosité qui est indispensable si on veut faire de la recherche. Et après, la patience, beaucoup de patience, parce que c'est un long parcours, hein, voilà, le doctorat c'est quand même un bac plus 8, donc il faut pas vouloir tout de suite faire ce qu'on veut faire. Voilà, moi j'ai vu au cours de mon parcours, je m'étais dit « Ah, mes stages, ce sera sur ça. » Et je pense que ça vaut pour la vie en général, de ce que les gens autour de moi plus âgés ont pu me dire. Il faut savoir s'ouvrir à d'autres choses et pas forcément rester dans son truc. Voilà, si je m'étais dit « Ouais, je veux faire de l'astrophysique et c'est tout, je veux rien faire qui sort de ça. » Je serais peut-être pas là aujourd'hui à faire cette émission où j'aurais fait complètement autre chose, mais voilà, je pense que ça m'a permis de voir plein de choses différentes. Et voilà, j'ai travaillé en VRI, j'ai travaillé dans l'aviation, j'ai fait des postes plus chimie, là je fais plus de la physique, et en fait ça permet aussi de voilà, de découvrir plein de choses.
Merci Léo pour tes réponses et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur notre site internet. On se donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine Maté Radio. Bonne soirée à toutes et à tous.